Heureux de vous retrouver ou de vous découvrir, parce que je ne connais pas. Aujourd'hui, je suis un peu dans l'air du temps, mais des choses qui ont été dites ce matin sur le climat un peu douloureux qui est sur nos têtes actuellement. Il y a eu des attentats dont a parlé notre frère. Le sentiment actuel que la mort est très présente, que le monde n'est pas gai, que la vie n'est pas amusante. C'est pas des nouveautés, mais parfois on a tendance à l'oublier quand les événements personnels ou collectifs se passent à peu près bien. On est pris dans une forme de quiétude et d'anesthésie qui fait qu'on oublie l'essentiel. Et l'essentiel, il est quand même que nous sommes sur une planète avec qui aura un début, une fin. Nous-mêmes, nous avons un début, une fin. Et l'ensemble de notre existence, quel que soit le moment de son terme, est parsemé de plus de moments difficiles et de souffrances. La prière de Jean-Pierre en était l'exemple, puisque même notre Seigneur, notre Christ, a vraiment eu vécu une vie de souffrance en majorité. C'est cette souffrance qui nous accompagne régulièrement. Et lorsque nous sommes confrontés à des événements aussi épouvantables que ceux que vous connaissez, soudain, toute cette vérité a tendance à nous exploser au visage à nouveau. Et c'est ce qui s'est passé pour moi, mais je ne suis pas différent des autres, je pense. Donc, je crois que nous avons à peu près tous les mêmes attitudes, les mêmes ressentis. Et ce mot de mort est un mot difficile à entendre. Vous savez bien que notre société même l'enlève souvent. Les gens sont décédés, les gens sont partis, les gens ne sont plus là, les gens ne sont pas morts. On cache ça souvent. Et quand ça apparaît brutalement à l'occasion d'un événement aussi dramatique, soudain ça nous éclate au visage, comme je le disais, et ça prend une force terrible qui nous renvoie à notre propre inquiétude, à notre propre angoisse. J'écoutais l'autre fois sur Internet une prédication de Billy Graham, non pas Billy Graham, un autre, un Américain, j'ai oublié le nom, mais c'est pas grave, et qui disait que la Bible, c'était le livre de l'angoisse. Et il avait raison. Car si vous regardez bien, la vie dans la Bible, elle est présente jusqu'à Genèse 2,16. Le premier chapitre, le début du deuxième chapitre, c'est la vie qui arrive. La vie qui vient, l'univers qui se met en place. Tout est créé, tout prolifère, tout se multiplie. Et Genèse 2,16, Dieu, à ce moment-là, pour la première fois, à cause de l'attitude de Adam, va dire au verset 17, tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance, du bien ou du mal, car alors tu en mourras. Vous savez évidemment que quelques moments plus tard, c'est ce qui va se passer. Ça y est, la mort est entrée, qui a priori n'était pas dans le plan, mais très vite, dès le deuxième chapitre de la Genèse. Et cette mort va traverser toute la Bible. Vous le savez aussi bien que moi. Toute la Bible, ce n'est que ça. Ce n'est que des histoires de vie, de mort, de gens qui essayent de survivre avec tous les coups bas permis la plupart du temps. Il y a parfois quelques lumières, des prophètes, des gens exceptionnels qui essayent de faire redonner place à la vie telle qu'elle avait été initialement prévue. Il ne devait y avoir que ça. Mais toute cette histoire que nous connaissons par cœur, qui est aussi notre histoire, c'est l'histoire de la lutte contre la mort. Chaque matin, c'est se réveiller, c'est trouver un salaire, travailler pour se nourrir. Si on ne se nourrit pas, on meurt. C'est s'occuper des nôtres, c'est les protéger, c'est essayer de se créer un cocon qui soit le plus agréable possible et qui éloigne le plus loin dans le temps l'inéluctable qui va arriver. Et d'un point de vue collectif, ça va être le peuple élu qui va être la parcelle de vie qui va renaître dans ce monde condamné à la mort. C'est l'ancienne alliance, c'est la naissance d'Israël, puis la chute d'Israël, l'apparition de Jésus, qui donc va quand même terminer sur une croix, ne l'oublions pas. Heureusement, il va ressusciter, cette résurrection nous ouvre la nouvelle alliance, puis la création de l'Église. Mais vous savez, jusqu'à aujourd'hui, comme ces lumières, ces espaces de vie sont toujours cernés par du mal, par de l'horreur, par des ténèbres, par de la douleur. Et comme je le disais, cette vision collective qu'on peut avoir, je dirais presque historiquement, nous le ressentons individuellement parce que chacun d'entre nous, notre passage sur Terre est en fait le résumé de ce que vit la collectivité humaine depuis des millénaires. Et je me demandais comment on se situe, nous, à titre personnel, dans ce grand voyage, dans ce grand voyage douloureux, dans ce grand voyage difficile, dans ce grand voyage dont on se dit le jour de la dernière seconde, comment je vais être, comment je vais réagir. Tout ce que je dis, tout ce que je chante, tout ce que je professe, est-ce que ça a du sens, finalement? Je sais que ces questions, on se les pose, évidemment, mais il y a des moments où on se les pose moins. Et puis, il y a des jours, peut-être, on se les pose plus. Et je pense qu'on devrait toujours se les poser, mais l'important, c'est peut-être moins la question que l'on pose que la réponse que l'on trouve. Et c'est ces réponses dont je voudrais parler avec vous ce matin, à travers, encore une fois, quelque chose de très concret. Je le répète souvent, je pense que notre foi, notre état de chrétien n'a de sens que parce que nous sommes immergés dans une société qui est la nôtre aujourd'hui, hic et nunc, ici et maintenant. Et même si nous devons nous servir, bien sûr, de l'expérience de nos aïeuls, de nos aïeux, c'est aujourd'hui que ça se passe, entre moi et lui, entre vous et lui, entre nous tous. Et puis nos enfants dont nous avons parlé, bien, eux, ils continueront quand ils ne seront plus là, et puis chacun fera ce qu'il peut, etc., etc. Mais ça reste à un moment ou l'autre une affaire individuelle, même si c'est la somme de ces individus qui fait la collectivité et la grande histoire. Alors, je voudrais, pour essayer de trouver une réponse, ou peut-être voir comment les gens se questionnent par rapport à tout ce que je viens vous raconter, vous lire des extraits d'articles de nos contemporains, de gens célèbres, de gens connus, pas des petits ouvrages qu'on trouve que dans les bibliothèques spécialisé, mais dans des grands hebdomadaires, Le Point, L'Express, L'Équipe Magazine, des choses qui sont lues à des millions d'exemplaires, centaines de milliers d'exemplaires. Donc, c'est une parole qui court, une parole ouverte à tous, pas une parole cachée. La première personne, c'est Woody Allen. Tout le monde connaît Woody Allen, hein, c'est le grand cinéaste américain, juif américain, qui a fait des films remarquables. C'est une sommité dans le monde du cinéma, dans le monde de la pensée, beaucoup de gens l'écoutent, suivent ses films avec beaucoup d'intérêt, parce qu'il dit des choses très intéressantes dedans. En fait, il parle toujours de la même chose, c'est une quête existentielle. Et donc, il a fait une interview du 15 octobre 2015, que j'ai gardée depuis le temps, parce que cette interview, elle est intéressante. Je ne sais pas pourquoi, mais elle m'intéresse. Je l'ai gardée, et à la suite des attentats, et quand j'ai su que c'était moi qui devais prendre la parole, je me dis, tiens, il faut que je parle de cette interview. Donc je vais vous en lire quelques extraits, parce que ils me paraissent dit par quelqu'un d'intelligent, qui a la réussite avec lui, qui est quelqu'un qu'on peut écouter. C'est pas une parole vaine qui ne repose pas sur des réflexions et sur une pensée. Voilà ce qu'il dit. D'abord, le journaliste lui demande « Vos films aussi traitent toujours des mêmes problèmes, ceux des questions dites existentielles. » Voici sa réponse. Oui, parce que ce sont les questions les plus importantes. Même si vous parveniez à résoudre tous les autres, vous n'aviez plus aucun problème politique, social ou sentimental. Admettons qu'on résout le problème de l'intégrisme, le problème de la pauvreté, le problème des migrants. On résout tout ça, que chacun a trouvé sa chacune, que tous les enfants vont bien. Enfin, voilà. La situation resterait critique parce qu'il y aurait encore ces questions terribles. Pourquoi sommes-nous là? Pourquoi sommes-nous nés? Quel est le sens de la vie? Pourquoi vieillissons-nous et pourquoi la mort, etc. Le journaliste, vous avez une préférence parmi toutes ces questions? Et celle à laquelle les philosophes n'ont jamais réussi à répondre de façon satisfaisante, répond Woody Allen, comment puis-je rendre ma vie supportable, sachant qu'elle n'est qu'un événement aléatoire et insignifiant? Comment puis-je continuer à vivre alors que je sais que quoi que je fasse, quoi que je construise, quel que soit le nombre de films que je réalise et le nombre d'entrées qu'il réussit, tout finit en poussière? Tout le mal qu'on se donne pour accomplir ces choses-là ne sert à rien. Donc, un esprit ouvert, intelligent, clairvoyant, qui énonce des problèmes vrais que l'on connaît, qui sont les nôtres, et qui fait même appel à la philosophie, mais même les philosophes n'ont pas réussi à répondre à son interrogation, qui chez lui est une angoisse. Alors, dans le film, donc, les questions dans cette interview s'appellent « L'homme irrationnel ». C'est un homme qui a tout ce qu'il veut, la réussite, etc. Il n'y croit plus en rien, il est désespéré. Et soudain, il sait que dans sa ville, aux États-Unis, il y a un juge qui est un mauvais juge. Il y a un juge qui rend des jugements uniques. Et il se dit, si je descends ce jus, si je l'abats, je donne un sens à ma vie, je fais du bien aux gens qui l'a détruit et qui pourraient détruire, et c'est ce qu'il fait. Et il est de nouveau heureux. Sauf qu'évidemment, la mort, à un moment ou l'autre, n'entraîne que le mal, etc. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc, réponse du journaliste, c'est ce que dit Abbé Lucas, le héros de l'homme irrationnel. Réponse de Woody Allen, il ne croit en rien, tout simplement parce qu'il n'y a rien. Mais on ne peut pas vivre sans se donner une raison de vivre. Alors il s'en trouve une, celle de tuer ce juge. Elle est dangereuse et irrationnelle, parce que ses prémices sont erronées, mais c'est une raison. À mes yeux, et là ça me concerne, ce n'est pas si différent de la démarche des gens qui vont à l'église, par exemple. Les religions sont bâties sur des mythes et des contes de fées, mais elles aident des millions de gens à vivre. Pour éviter d'errer sans but, il faut juste choisir quelque chose en quoi on veut croire et parvenir à s'en convaincre soi-même. Donc c'est à nous qu'il parle, cet homme intelligent, très intelligent, dit le monde n'a pas de sens, mais il y a des gens qui essayent de trouver un sens. Évidemment, ce sont des billevesées, tout ça est faux, mais au moins, ils font cette tentative-là, tant mieux pour eux. Et vous voyez bien derrière ça une attaque de la religion, mais pas une attaque frontale, une attaque de lucide, une attaque de pessimisme. Le pessimisme lucide, on pourrait dire. Du coup, le journaliste va plus loin et lui dit, bah alors vous, parce que c'est toujours un moment ou l'autre, une question personnelle. On peut avoir des grandes idées, connaître toutes les histoires, mais à un moment, c'est toi, qu'est-ce que tu fais? Donc, le journaliste lui demande, mais alors, en quoi avez-vous choisi de croire? Il répond, je suis hélas. J'aime bien ce hélas. De ces personnes qui ne parviennent jamais vraiment à croire. Je trouve que la vie est une expérience douloureuse et vide de sens. Les existentialistes disent que la vie a le sens qu'on lui donne, mais je n'ai jamais réussi à en trouver un. J'aimerais y arriver, mais je sens qu'elle n'en a pas. Donc là, on touche le fond de l'angoisse. Quelqu'un qui est capable d'écrire avec cette précision, cette qualité, notre état d'humanité, qui a même trouvé des gens qui ont peut-être trouvé une réponse. Lui, il n'y croit pas. De lui, il dit, je n'y arrive pas. Je ne peux pas. Et à ce moment-là, comme c'est un homme intelligent, cultivé, au lieu de prendre, comme certains, l'action violente pour combattre cette angoisse-là, ce mal-être, et entraîner les autres dans sa propre déchéance, vous voyez à quoi je fais allusion, lui répond simplement, mais en fin de compte, peu importe. Whatever works. Ça veut dire, c'est le titre d'un de mes films, et c'est mon état d'esprit, du moment que ça marche pour vous, tant mieux. Voilà. Donc, on dirait un fatalisme tolérant. Il laisse cette porte-là, écoutez. De toute façon, on est dans le même bateau. Si vous, ça vous permet d'avoir un peu moins le mal de mer pendant la traversée, tant mieux. Mais de toute façon, ça tient pas la route. C'est terrible, je trouve, comme texte. Et c'est pas écrit par quelqu'un. Non, non, c'est dans un journal. Le Point, 15 octobre. Plein de gens ont lu ça. Des millions, des milliers de gens. Puis Woody Allen, il y a un article. On lit l'article de Woody Allen. Et là, on reçoit ça en pleine tête. Comment nos contemporains réagissent à ça? Alors nous, moi, je dis non. Oui, en effet, les religions sont bâties de l'unité de grandes fées. Non, je ne pense pas. Du coup, moi, j'ai un coup d'avance sur toi. Mais je suis en même temps forcé d'être pris par cette angoisse qu'il dit avoir. Parce que je la connais, cette angoisse. Et je ne peux pas dire, je ne l'ai jamais eue. Ou peut-être, je ne l'aurai plus jamais. C'est quelque chose qui est tout à fait proche de ce qu'on peut, dans notre intimité, à un moment ou l'autre, ressentir, vivre. Et si on si on le dément, en disant jamais, ben bravo. Mais malheureusement, c'est pas mon cas. Et je pense qu'à un moment ou l'autre, même notre Seigneur, au moment dans le jardin des Oliviers, à quelques heures d'être emprisonné et crucifié, cette angoisse, il l'a. Elle est peut-être pas du même ordre, parce que lui, c'est vraiment la fin de l'histoire. Mais quand même, le sentiment d'abandon à ce moment-là, il l'a, puisqu'il est parfaitement humain, comme disait Jean-Pierre. Donc, ne cachons pas cette angoisse. Ne cachons pas notre angoisse. Elle fait partie de notre condition humaine, c'est parce qu'elle est là, cette angoisse, qu'on peut aussi croire et être heureux d'être sauvé. Sans angoisse, il n'y a pas de volonté d'être sauvé, il n'y a pas de joie d'être sauvé, il n'y a pas de reconnaissance. Si je nage dans l'eau et que quelqu'un vient me tendre la main pour me sortir de l'eau, je dis, bah non, ça va, très bien, je nage, il n'y a pas de souci. Si je me noie, qu'on me tend la main, oui, je suis heureux qu'on me sorte de l'eau. Alors, ce personnage me faisait penser un peu à Hérode. Je ne vais pas relire l'histoire d'Hérode, vous la connaissez, puis c'est très rapide, puis c'est pas complètement du papier collé. Mais rappelez-vous, quand on amène Jésus à Hérode, au début, Hérode est plein de joie, parce qu'il voit Jésus, il dit, ah, enfin! Et donc, il va faire des miracles, il va m'expliquer, il va me donner la clé philosophique que demande Woody Allen. Il va me dire pourquoi je vais enfin avoir un sens à ma vie que je ne comprends pas, alors que j'ai tout, j'ai. Mais vous savez que Jésus ne répond pas, parce qu'il sait que cet homme ne va pas être capable de l'entendre de toute façon, et la clé, c'est le mépris, il le déguise, il le renvoie. Ce que fait pas Woody Allen. Passons à un autre témoignage, s'il vous plaît. Donc là, c'est vraiment l'homme sans Dieu, mais c'est pas un monstre, c'est pas un type loin de nous, c'est quelqu'un qui a peut-être pas eu la même chance que nous, je ne sais pas, c'est son histoire. Passons à un deuxième témoignage, dans l'Équipe Magazine, cette fois. Vous voyez, on parcourt un peu la grande presse française. Je vais vous parler de Monsieur Tyson Fury. Vous connaissez Tyson Fury? Sûrement pas. C'est le nouveau champion du monde des poids lourds, 2,06 m, 118 kilos. C'est un Anglais gitan qui a battu il y a quelques semaines le champion du monde russe qui était invaincu depuis très longtemps et qui est devenu donc le nouveau champion du monde unifié. Donc c'est l'homme le plus fort du monde. Il casse tout le monde. Ok, donc on se dit, entre Woody Allen et lui, il n'y a pas photo. Et l'autre, le gars qui fait des films extraordinaires. Pourtant, il y a photo. Alors, c'est un très long article. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le journaliste qui présente l'article le présente de façon très négative. C'est un homme qui a une mauvaise image. On lui dit, c'est un espèce de provocateur, dépressif, et qui n'est pas très agréable avec les journalistes durs d'accès. Et donc, le journaliste termine son petit chapeau d'introduction. Ferry terminera les 12 rounds avant l'interview, gardant son humeur noire pour l'interview. Donc, le gars se dit, je vais me faire attaquer. Quelque chose. Donc, c'est très intéressant parce que là, nous sommes dans. Alors, ça, cette interview est encore lue beaucoup plus celui de Woody Allen, hein, croyez-moi. Les types magazines, en termes de vente, je fais partie des acheteurs, c'est le cran au-dessus du Point et de l'Express. Il va donner sa foi, il va exprimer sa foi, mais d'une façon que l'on peut entendre, que l'on peut comprendre, et qui peut être aussi ce qu'on ressent nous. Et je dirais que c'est la foi de l'Ancien Testament. Écoutez bien ce qu'il dit, parce qu'il y a des résonances avec ce qu'a dit Woody Allen dans l'angoisse, dans le mal-être. Et pourtant, la clé que Woody Allen rejetait, là, elle est un peu dans la serrure. Pourquoi boxez-vous? Première question, donc ce type, bête et tout, il dit, pourquoi je boxe? Pour l'argent. Au départ, je rêvais d'être champion. Je le suis devenu. Une fois que tu es au sommet, il y a quelques mots grossiers que je vais vous transformer, hein, parce que je veux pas. Mais dites-vous bien que c'est brut, hein, mais je ne vais pas vous choquer. Donc, nos visiteuses ne reviendraient plus, sinon, on dirait, c'est une église, on dit des gros mots. Une fois que tu es au sommet, tu réalises que c'est de la crotte. C'est comme une Rolls-Royce. Tu en rêves et une fois que tu en possèdes une, tu t'en fiches. Pareil pour une montre Rolex. Tu t'en payes une et après, le vide. Tu t'offres un manoir, mais du coup, tu regrettes ta caravane. Toutes ces choses ne sont pas si essentielles, n'est-ce pas, le journaliste? Vous avez avoué un jour souffrir de dépression comme Mike Tyson, qui est un ancien champion. Je ne suis pas dépressif, juste réaliste. Je sais de quoi la vie est faite. Je sais ce que c'est de ne rien posséder. Je sais aussi ce que c'est de posséder beaucoup et même plus. Il n'y a pas une grande différence entre les deux. Tout est dans la façon dont on ressent les choses. Ces 5 dernières années, j'ai bu les champagnes les plus chers. J'ai vu des tables garnies de centaines de livres sterling de nourriture. J'ai dormi dans les meilleurs palaces. Mais en fait, il n'y a rien de valable dans ce bas monde. Le gars, boxeur, sorti de rien, il a tout gagné, richissime. Il est capable à ce niveau-là de réussite, sans études, etc., de faire ce constat. Moi, je dis, c'est intéressant. Le journaliste, lui, évidemment, il se dit, oh là là, c'est quoi parce que d'habitude, oui, je boxe, j'ai mis une gauche, une droite, j'ai mes partenaires, on s'amuse, ouais, on fait la fête, j'ai des tatouages. Ouais, le journaliste est un peu perdu. Alors, du coup, il pose la question suivante. Il dit, mais c'est quoi alors pour vous un bon moment de vie? On n'est plus dans la boxe, hein. C'est quand je prie. Quand je vais à l'église, voilà mes moments heureux. Quand je ne fais pas ça, quand je me laisse happer par le désir terrestre, le sexe ou tous les autres trucs stupides de l'existence, je me sens au mauvais endroit. Alors le journaliste, là, il dit, où je suis là? Alors, on n'est plus dans la boxe, on est dans le football, même Équipe Magazine. Là, il dit des questions. Je n'ai jamais lu ça en 40 ans d'Équipe Magazine. Je fais ça. Vous allez tous les jours à l'église? Point d'interrogation. Non, mais je prie tous les jours. Alors, quelle est votre confession? Parce qu'il faut des trucs. Vous êtes catholique, protestant. Au moins, il a vu que église, c'est à peu près chrétien. C'est pas tombé sur autre chose. Aucune. Je crois juste en Dieu. Je n'appartiens à aucune organisation, à aucun groupe. Vous référez-vous à un livre saint? Oui, la Bible parfois. Sa lecture vous apporte la paix? Si vous voulez le dire ainsi, peut-être. Et là, à mon Tyson Fury, je me dis, aïe! Là, on était sur un bon chemin pour lui, et moi évidemment pour moi en tant que chrétien, et je me dis, il commence à montrer des signes de faiblesse. Là. Il est dans la montée, il a du mal à pédaler, et comme si le journaliste lui donnait pas la bonne réplique pour qu'il puisse vraiment donner sa libre mesure. Et alors, le malaise va continuer. Je vous avais dit qu'on était dans l'Ancien Testament, à mon avis. Le malaise va continuer. Alors, je passe des moments qui nous concernent moins. Quelle était votre première pensée ce matin au réveil? Le boxeur répond. Je me suis dit, un jour de plus dans le ghetto. Qu'importe que nous soyons lundi, jeudi ou vendredi. En camp d'entraînement, tous les jours se ressemblent. Qui s'entraîne pour le chemin du monde. On a envie d'en finir le plus vite possible. Ce n'est que peine et je compte les secondes. Je ne veux plus être en camp d'entraînement. Vous remplacez camp d'entraînement par lieu de travail. Enfin, tout ce que vous voulez, ça peut fonctionner. Je ne veux plus être là, ni à aucun autre endroit sur Terre. Rien ne m'intéresse ni ne m'attire. Je suis ce qu'on pourrait appeler une personne très négative. Je pourrais rendre triste la personne la plus joyeuse pour peu qu'elle passe une heure à mes côtés. Là, déjà, le témoignage, on se dit, zut, il nous manque un élément là. Alors l'autre, mais vous jouez un jeu, un rôle. Parce que... Non, je suis sérieux. Rien ne me rend heureux. Pas même la naissance d'un enfant ou mon mariage. Ni encore remporter un championnat du monde. Et pas plus la nourriture, l'argent ou le sexe. Si je suis content quelques secondes, je redeviens triste aussitôt. J'ai 27 ans, et je ne suis pas parvenu à trouver le bonheur alors que je suis au sommet, que j'ai accès à tout ce dont un homme peut rêver. Que puis-je faire ou dire? Alors là, on a rejoint l'angoisse de Woody Allen. C'est exactement les mêmes conclusions, les mêmes peurs, les mêmes remarques. Mais ce qui est triste, c'est que on a l'impression que pourtant, lui, la clé, il l'avait trouvée. Mais il ne va pas au bout. Et du coup, ça va embrumer son esprit qui va dire des choses un peu incohérentes. En mettant pour la première fois dans cette interview le mot de chrétien. Et c'est bête que l'incohérence arrive à ce moment-là. Alors, le journaliste, mais l'investissement de votre oncle entraîneur, l'implication des gens de votre camp, voilà qui doit vous procurer une certaine satisfaction, non? Réponse. D'une certaine manière, oui, car on a accompli un projet de plusieurs années. On peut ressentir ça. Oui, ça, j'ai fait ça, j'ai réussi ça, etc. On l'a fait. Voilà de quoi rendre tout le monde satisfait, heureux même. Mais chacun se doit de réaliser sa propre existence. Les gens ne peuvent pas vivre à travers mes exploits. Chacun doit vivre sa propre vie, non pas sur mon nom ni sur mon dos. Déjà que j'ai du mal à vivre avec moi-même. Vous pouvez faire preuve d'humour, mais parfois aussi verser dans des déclarations plus violentes, dit le journaliste, comme sur l'avortement. Vous avez été aussi taxé d'homophobie. Vous faites ça pour le buzz? Non, ce n'est pas mon but. J'exprimais des opinions sur des sujets qui ne me concernent pas. Si deux êtres du même sexe veulent faire des choses ensemble, pourquoi je m'en soucierais? Ça ne me regarde pas. Ce n'est pas même de la stratégie, car je n'ai rien à gagner à ça. Alors pourquoi de telles déclarations, dit le journaliste? Par pure stupidité. Parler de ce qui ne vous concerne pas est stupide. Après, en tant que chrétien, je ressens comme un devoir de dire ma vérité aux gens. Vous voyez, le discours est chaotique, mais pas structuré. On sent qu'il y a cette fameuse lumière dont tu parlais, elle est là, mais elle sort pas au bon endroit, elle sort pas au bon moment. Et du coup, l'image qu'il va donner à ces centaines de milliers de lecteurs, elle est très très bizarre. Et malheureusement, ça va aller de pire en pire, parce que là, il parle de ce qu'il vit au présent, maintenant il va parler de l'avenir. Donc là, il vient de dire qu'il était chrétien. Donc si je demande, dit le journaliste, comment vous aimeriez qu'on se souvienne de vous, vous allez me répondre que vous vous en fichez. Réponse, absolument. Même si je me fais mettre KO en 10 secondes le 9 juillet, je m'en fiche. Il n'y a pas d'héritage me concernant. Quand tu es mort, tu es parti, non? Qu'importe ce que tu as fait sur Terre à ce moment-là, la seule chose qui m'importe, c'est d'aller au paradis. Journaliste, vous avez pu vaincre un champion invaincu depuis 11 ans, mais vous ne parvenez pas à vous vaincre? Réponse, il me faudrait le vouloir pour y arriver. Et vous savez ce que je veux? Je voudrais rester seul. C'est triste d'être ainsi, non? J'aimerais être enfermé dans un lieu et qu'on me nourrisse à travers la porte. La prison, ce serait le meilleur endroit peut-être. J'apporte la misère dans la vie des gens, je les attire vers le fond. On dit que je joue à un jeu, mais quel jeu? Au nom de quoi devrais-je rendre les gens heureux? La vie est ainsi, on se lève chaque matin pour aller se coucher le soir, et chaque jour qui passe nous rapproche de la tombe. On est des gouttes d'eau dans l'océan, sans importance, tout est vain. Point final, le journaliste, il n'a même pas conclu, il termine. Waouh! Mais c'est du Woody Allen, vu par un boxeur. Différent, c'est des choses qu'on peut entendre, qu'on peut ressentir, qu'on peut comprendre, qui sont, si vous parlez avec les gens un peu profondément, après l'apéritif et le match de foot, on peut arriver à ce genre de phrase-là. Mais moi, j'ai l'impression, quand j'entends la fin, tout est vain, j'entends l'Ecclésiaste. Évidemment, vanité, tout est vanité. Si vous relisez la plainte de Job dans le chapitre 3, c'est absolument ça. Et pourtant, Job et l'Ecclésiaste, ce sont des hommes de Dieu. Mais ce sont des hommes de l'Ancien Testament. Et on pourrait dire que ce boxeur-là, il est dans le mode d'esprit de l'Ancien Testament. Il est dans cette espèce de reconnaissance de la vie supérieure, de la reconnaissance de Dieu, du paradis. Mais ça vaut tellement pas le coup de. C'est tellement dur ici-bas qu'il vaut mieux y arriver tout de suite. Et c'est vraiment un discours qui est donc déjà plus enrichissant, plus puissant, plus porteur de quelque chose, d'espoir. Mais d'un autre côté, à l'arrivée, le lecteur qui lit les deux, il n'a pas le sentiment d'avoir été au bout de la réponse. Alors moi, ça m'a donné un grand malaise, évidemment, comme vous, je pense. Et à chaque fois, je me dis, quand j'ai ce grand moment-là, je vais vers Jésus. Parce que là, je me dis. Il a la clé, il a la réponse, c'est lui qui est venu, il a tout compris, il a vécu comme nous, et lui, il sait. Donc, dans Luc 18, parce que moi, Woody Allen, je l'aime beaucoup, Tyson Fury, je l'aime beaucoup, et ça me fait beaucoup de peine qu'il soit dans cet état-là. Ça fait d'autant plus de peine que c'est un état que je connais parfois, ou que j'ai connu. Et alors, dans Luc 18.1, voilà ce qui est dit. La parabole du juge unique. C'est drôle. C'est ça qui m'a fait penser. Le juge unique. C'est le terme qui est employé d'ailleurs dans le compte-rendu de Wikipédia. Il va tuer un juge unique. Vous savez, le héros du film de Woody Allen. Et là, les têtes de chapitre de David, c'est parabole du juge unique. Il y avait dans une ville, donc Jésus parle, un juge qui ne craignait pas Dieu, qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de mon adversaire. Oui, c'est ça. Pendant longtemps, il n'eut voulu pas. C'est le 1, là, au verset 4. Mais ensuite, il dit en lui-même, bien que je ne craigne pas Dieu, que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve me cause des ennuis, je lui ferai justice, de peur que jusqu'à la fin, elle vienne me casser la tête. Et le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge unique. Et là, Jésus donne la conclusion de cette parabole. Et Dieu ne ferait-il point justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit et tarderait-il à leur égard? Notre boxeur et Woody Allen, à leur façon, ne font que ça, crier à lui jour et nuit. Même si l'un pense que c'est des billevesées, rien que le fait d'en parler, c'est déjà une forme de cri. Et ce que fait le boxeur, c'est absolument ce qui est dit, crier à lui jour et nuit. Je vous le dis, leur fera promptement justice. Mais, et c'est ça qui m'intéresse, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Trouvera-t-il la foi sur la terre? C'est à rajouter à Matthieu 17, 20, pour que notre horizon s'éclaire, après ces lectures bizarres. Matthieu 17, 20. Vous vous souvenez quand Jésus menace le démon qui est dans un garçon et réussit à le faire partir, ses disciples disent, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? Et Jésus répond, chapitre 17, verset 20, c'est à cause de votre petite foi. Alors, je ne sais pas en grec comment c'est écrit, mais dans toutes les traductions, après ça, c'est à cause de votre manque de foi. Et là, j'ai bien de votre incrédulité. Là, votre petite foi. Je vais garder cette traduction-là, parce que ce qui manque à Woody Allen totalement, ce qui manque en grande partie à notre boxeur, c'est la foi. Je veux dire que Woody Allen ne l'a pas du tout. Et que le boxeur, il y a la petite foi, celle qu'avaient les apôtres, qui était encore issu de l'Ancien Testament. Et nous, on a la chance d'avoir la grande foi. On devrait l'avoir. On a la possibilité de l'attraper. Et cette foi-là, c'est, encore une fois, je reviens à des basiques, parce que il n'y a que ça qui est le socle de notre vérité, c'est des phrases que vous connaissez par cœur et où le mot de vie va revenir. Vous vous souvenez, j'ai commencé par la vie, qui a une vie disparue, remplacée par la mort, qui est finalement présente tout le temps. Et là, regardez les quelques versets sur la foi que nous connaissons par cœur. Hébreux 11.1, or la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc là, on n'est pas dans les bilvesées ou les contes de fées de Woody Allen. C'est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est ça, avoir la foi. C'est pas se poser des questions sur est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai. On est sûr que c'est vrai. Mais c'est pas la petite foi. La petite foi, c'est on espère que c'est vrai. La vraie foi, celle que Jésus est venu nous apporter, celle de la nouvelle alliance, c'est je sais que c'est vrai. Ensuite, parce que tout, 1 Jean 5,4, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et voici la victoire qui triomphe du monde, notre foi. Et quand on dit le monde, c'est tout ce qui nous entoure. C'est ça le monde. Et ce qui triomphe du monde, c'est notre foi. Mais c'est pas la petite foi. C'est pas celle des 10 commandements, dont on sait qu'elle est impossible à tenir. C'est la vraie, la grande foi. Celle que Jésus est venu nous donner, nous transmettre. Ensuite, Hébreux 11,6. Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Là, vous allez me dire, mais d'accord, cette foi-là, c'est ça, c'est avoir la foi. Mais c'est quoi alors, la foi? Là, on nous dit, il faut avoir la foi. Maintenant, voici les 5 versets essentiels. La foi, c'est la foi en Christ. Alors là encore, c'est des versets que vous connaissez, mais si on les écoutait un peu différemment. Parce que là, le fameux mot de vie dont je vous ai parlé au début, là, il revient en force. Enfin. Parce que normalement, il faut attendre l'Apocalypse pour que la vie revienne, le fleuve de vie, pour que la boucle soit faite avec la Genèse. Jean 3,15, vous connaissez, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Jean 5,24, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole, qui croit celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle et ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Jean 11,25, Jésus lui dit, moi je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Jean 12,46, moi la lumière, je suis venu dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Jean 20,31, mais ceci est écrit afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Et Romains 19, c'est un paquet cadeau. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. C'est ça la foi. C'est ça. Woody Allen, il ne veut même pas en entendre parler. Il le connaît, il connaît tout, tous ces textes. Mais c'est pas vrai, c'est des contes de fées. Le deuxième, le boxeur, il a ce sentiment de verticalité de l'existence de Dieu. Mais il va pas plus loin, il dit qu'il est juste chrétien, c'est pas un reproche, hein. Il se débrouille plus de temps en temps. Je ne sais pas, où est passée la fraternité qu'on peut trouver nous dans nos églises? Alors nos églises, elles valent ce qu'elles valent, mais au moins elles nous permettent de nous entretenir, d'échanger, de nous faire du bien, pas d'avoir l'orgueil de penser qu'on peut se débrouiller seul dans notre chambre le soir. Parce que ces angoisses-là, moi je vous parle ça, mais c'est des choses que j'ai eues cette semaine, je vous la partage. J'espère vous en mettre le fardeau, mais au contraire, essayez avec ce que j'ai pu trouver de repartir d'un bon pied. Voilà, la foi, c'est le retour de la vie, la foi. Mais c'est des choses à quelles il faut croire vraiment. Sinon, c'est la petite. Et la petite, ça ne nous fait pas sortir de l'Ancien Testament. Et l'Ancien Testament, vous savez très bien qu'il a été aboli. Donc où est-ce que nous en sommes par rapport à « je crois, j'ai la foi ». C'est-à-dire, je suis persuadé non seulement qu'il y a une transcendance, mais que Jésus, c'est ce que fait, en venant j'écoutais France Culture, il y avait la reproduction d'une messe catholique, etc. Et à un moment, il récitait le Confiteor, « je crois ». Bon, on croit ce qu'on veut, d'accord, c'est un peu vague, mais c'est bien, nous, de dire, d'ailleurs c'est dans le site, hein, « à quoi croyons-nous ?» Mais le croire, vraiment, c'est-à-dire que tous les gens à Nice et ailleurs qui ont fait toutes ces horreurs, c'est des gens qui se donnent la mort pour entraîner la mort. Nous, notre foi, c'est que Jésus, il a donné sa vie pour donner la vie. C'est-à-dire, on est complètement dans deux mondes parallèles et ce qui permet que ça fonctionne, c'est la foi. Mais c'est énorme comme responsabilité qu'est la nôtre. Et j'espère que si un jour on est interviewé dans Le Point ou dans l'Équipe Magazine ou dans Tricot Mensuel ou je ne sais pas, ou dans les joyeux amitiés de la bouliste pétanque certains sont très forts, on aura ce témoignage précis, puissant. J'ai la foi, la grande, la vraie, et je sais ce que ça veut dire. Jésus est le Fils de Dieu, un. Ah bon? Oui, c'est comme ça. Il est venu sur terre, il a souffert exactement comme nous. Il est mort pour nous, sur la croix. Il est ressuscité, c'est-à-dire qu'il est vraiment vivant. Et en croyant à ça, je suis sauvé. C'est-à-dire que je vais mourir, parce que cette vie, c'est une vie de ce qu'on veut. À l'arrivée, ça va se terminer. Mais derrière ça, ce fameux paradis qu'on me promet, il va être magnifique. Mais il ne va pas se faire au détriment des autres. C'est ça la foi. Si on ne se donne pas le mal d'y croire totalement à fond, ça ne sert à rien. On peut vite aller boire le champagne et faire comme si on en a les moyens, si notre vie quotidienne nous permet d'avoir ces moyens-là. Voilà, c'est simplement, je vous ai dit que j'essaierais de poser une question qui était évidente, de trouver quelques réponses. Moi, je me suis raccroché à cette réponse-là. Je ne me suis pas raccroché comme « Ah, mon Dieu, j'ai peur !» Mais évidemment que j'ai peur. Mais au fond de moi, cette foi qui m'a été transmise le jour où j'ai rencontré José, et qui j'espère transmettre, parce que c'est qu'une chaîne de transmission, je sais qu'elle est là. Et j'ose, évidemment, je suis persuadé que pour vous, c'est la même chose. Mais si on n'a pas cette solidité de cette grande foi-là, on est fichu. Parce que le monde est trop pénible, le monde est trop cruel, le monde est trop lourd. Donc, ayons cette joie de se dire qu'on a ces phrases-là en nous et qu'elles veulent dire quelque chose, elles ont vraiment du sens. Vraiment.